mesure la Chine est-elle devenue une menace pour les démocraties occidentales? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cet entretien, quelques jours seulement après la fin d'impressionnantes manœuvres militaires aux abords de l'île de Taïwan, que Pékin considère comme l'une de ses provinces.
François, bonjour à tous, ravi de vous voir.
Enfin, on se voit. C'est vrai que vous intervenez le lundi matin dans Matin Première à distance depuis Paris. Vous êtes à Bruxelles ce matin pour nous parler de ce livre. On va commencer par une question d'actualité. Est-ce que la Chine s'apprête à envahir Taïwan comme l'a fait la Russie avec l'Ukraine?
Il est toujours très dangereux de se livrer à ce genre de prédiction, mais je ne le crois pas, et précisément parce que le pouvoir chinois observe avec un mélange de consternation et d'intérêt ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire l'incapacité de l'armée russe, que l'on prenait pour la deuxième armée la plus puissante du monde, à en fait venir à bout de la résistance ukrainienne en 3 jours, ce qui était le plan de Vladimir Poutine. Et donc je crois que dans la gesticulation chinoise autour de Taïwan, c'est une forme d'habitude du régime chinois, à la fois pour galvaniser le nationalisme d'1,4 milliard de gens, et aussi pour prouver son mécontentement et même sa colère chaque fois qu'un dirigeant taïwanais rencontre un dirigeant américain d'importance. Et aussitôt, au moins 11 bateaux de guerre, 70 avions de chasse, et sur les médias chinois, qui sont évidemment les médias d'État, des simulations vidéo absolument terrifiantes où on voit une pluie de missiles tomber sur Taïwan, etc. Mais c'est de la gesticulation, et bien évidemment la Chine, qui a un problème économique et démographique majeur, problème économique parce que ralentissement de la croissance, augmentation du chômage des jeunes sortis d'université, ce qui pour l'espèce de contrat tacite entre le régime et cette classe moyenne émergente est un très mauvais signal. 3 ans de zéro Covid qui a tout ralenti, et l'oppression que fait régner Xi Jinping au nom de l'idéologie sur ces entrepreneurs qui ont assuré quand même pendant 30 ans un dynamisme économique tout à fait remarquable. Donc la combinaison de tous ces facteurs me semble très peu propice à se lancer dans une aventure militaire dangereuse.
Vous démontrez, Christine O'Krent, dans ce livre « L'Empereur et les milliardaires rouges », comment les patrons chinois tombent un peu comme des mouches, ils disparaissent, leurs entreprises sont dilapidées, comme par exemple le boss d'Alibaba qui n'a pas donné de nouvelles pendant des mois, avant de réapparaître, de finalement s'exiler au Japon. Quelle est la stratégie de Xi Jinping? Est-ce qu'il est en train de brûler ce qu'il a adoré, de tenter de mettre au pas ceux qui ont amené la Chine comme deuxième économie planétaire?
C'est toute l'ambiguïté du système Xi Jinping, et c'est ce qui est, je crois, fascinant et ce qui me semble intéressant de comprendre comment fonctionne ce régime. Xi Jinping est un idéologue, mais il est aussi pragmatique quand il s'agit de l'être. Donc, en fonction des époques, il arrive au pouvoir à un moment où la corruption a atteint un niveau inimaginable, sous son prédécesseur Hu Jintao, où les clans, les grandes familles, c'est quand même un système très aristocratique, paradoxalement, le Parti communiste, Xi Jinping lui-même étant un prince rouge. Son père était l'un des 9 compagnons d'origine, si j'ose dire, de Mao Tse-tung. Mais dans ce système-là, Xi a d'abord mené une espèce d'épuration au sein du parti et au sein de la classe, disons, d'entrepreneurs, ce qui l'a rendu immensément populaire auprès du chinois lambda, si j'ose dire, en envoyant en prison. Les chiffres en Chine sont toujours très difficiles à estimer, mais probablement au moins 4 millions de gens qui ont disparu ou qui sont en prison, etc. Donc parmi eux, beaucoup de notables du parti lui-même, et d'entrepreneurs dont les excès, je raconte plusieurs anecdotes inimaginables, notamment un ancien chef d'état-major qui avait accumulé tellement de devises et tellement de pierres précieuses et tellement d'œuvres d'art qu'il a fallu plusieurs camions de l'armée pour dégager tout ça.
Mais donc 4 millions, voire plus, de gens épurés, en Chine.
Épurés.
Une espèce de chasse aux ultra-riches.
De chasse à la corruption. Mmh. Et d'ailleurs, avec cette formidable subtilité du mandarin, et ça s'appelle, en chinois, la chasse aux mouches, aux tigres et aux renards. Donc on voit bien les trois catégories de personnages qui ont utilisé à leur profit cet extraordinaire élan entrepreneurial de la Chine. Mais ces deux derniers mois, on voit disparaître le patron d'un fonds d'investissement Renaissance disparu, Bao Fan disparu, au moment où, comme beaucoup de richissimes Chinois, il voulait s'installer à Singapour. Depuis que Hong Kong est complètement sous le contrôle de Pékin, Singapour fait figure de havre à tous égards pour les très riches Chinois. Donc lui, il a carrément disparu. Mais on a vu ressortir de prison, où il était en tôle pour corruption, le patron d'une entreprise de semi-conducteurs. Pourquoi ? Parce que dans les priorités de Xi Jinping aujourd'hui, face aux sanctions américaines et occidentales qui s'efforcent de ralentir la croissance technologique de la Chine, les semi-conducteurs, vous savez, c'est ces microprocesseurs, les chips qu'on a tous dans tous les objets
du quotidien,
la Chine n'en a pas assez. L'ironie veut que c'est à Taïwan que se situe le premier constructeur de ces microprocesseurs. Et donc on a vu sortir ce monsieur de façon à ce qu'il redynamise son entreprise de microprocesseurs.
Donc l'objectif du pouvoir chinois, on le comprend aussi à travers votre livre, c'est toujours de gagner cette guerre des nouvelles technologies. Le principal adversaire, c'est évidemment les États-Unis et l'Amérique de Joe Biden. Où se situe l'Europe? Est-ce que c'est pas ça le grand défi aussi européen aujourd'hui, c'est de se raccrocher à ce train des nouvelles technologies? On en est où dans cette guerre entre la Chine et les États-Unis? Quelle carte l'Europe a-t-elle à jouer aujourd'hui, Christine Ockrent?
On n'en a pas beaucoup, mais on en a une massive par rapport aux besoins de l'économie chinoise. C'est que nous représentons un immense marché de 500 millions de consommateurs. Mais tout l'enjeu pour les 27 membres de l'Union européenne, et on sait à quel point c'est souvent difficile, c'est d'avoir une position commune, ou en tout cas coordonnée. Et on voit que l'économie allemande, qui est la plus puissante, mais aussi la plus dépendante du marché chinois, on a vu le chancelier Scholz aller seul en novembre à Pékin, entouré d'une impressionnante délégation de chefs d'entreprise allemands. On a vu le président français avoir l'heureuse initiative de proposer à Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, d'y aller avec lui. On a vu comment le pouvoir chinois, avec délectation, s'est empressé de jouer de la différence de statut entre eux deux, de dissocier leur discours d'une certaine manière, Madame von der Leyen étant d'ailleurs beaucoup plus frontale et beaucoup plus carrée, et elle a raison à mon avis, quand elle dit la Chine est un rival systémique qui en plus ne respecte pas les termes des accords commerciaux.
Emmanuel Macron très critiqué d'ailleurs pour ses propos quand il repart de Pékin dans l'avion et qu'il affiche une certaine neutralité par rapport aux ambitions chinoises vis-à-vis de Taïwan. Très critiqué là, il y a une dissonance dans le discours de l'Europe.
Il y a une dissonance. S'il y a en plus, comme souvent avec Emmanuel Macron, ou comme souvent d'ailleurs avec les dirigeants français, cette espèce de forme, comment dire, d'une pensée complexe qui consisterait à dire, et c'est intéressant, que l'Europe, et c'est vrai, n'a pas les mêmes intérêts que les États-Unis. Néanmoins, sa manière de l'exprimer et le moment où il l'exprime, précisément quand Pékin déclenche ces manœuvres spectaculaires dont on parlait pour faire peur aux Taïwanais, c'est pas particulièrement mal tombé et ça lui a été beaucoup reproché. C'est encore le cas dans toutes les capitales européennes.
Christine Ockrent, vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup l'occasion de vous avoir ici à Bruxelles. Vous avez été la première femme à présenter les 20 heures. À l'époque, c'était sur...
Enfin, la rédactrice en chef, voilà. Plus important.
À l'époque, c'était sur Antenne 2. C'est comme ça qu'on
l'appelait. Au siècle dernier.
Quand vous présentiez le 20 heures, on vous appelait la reine Christine. Oui, vous aimiez ce surnom? Non, pas du tout.
Comme hélas, pour moi, j'ai rien à voir avec Greta Garbo, qui elle jouait la vraie reine Christine dans un film admirable. Non, après, ça m'a valu, au moment des guignols, d'avoir une couronne de travers qui me tombait sur le nez. Enfin, non, tout cela fait partie d'une forme de starisation qui a quand même assez largement disparu, heureusement.
Vous êtes née à Bruxelles, Christine Ockrent. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de cette belgitude ou plus du tout?
Ah si, absolument. Enfin, un sentiment et une forme de fierté, parce que par rapport à, comment dire, à cet esprit français dans lequel j'ai eu la chance finalement d'être éduqué, de beaucoup travailler. Il y a, je trouve, malgré tout, en Belgique, cet extraordinaire mélange de baroque. Je veux dire, c'est pas par hasard si c'est ici qu'on a inventé la bande dessinée, le surréalisme. Voilà. Et donc, pour moi, oui, sentimentalement, je reste très attachée à tout cela, même si c'est évidemment totalement subjectif.
Voilà, un lien affectif encore avec... cet esprit très belge. Merci beaucoup Christine Ockrent. On rappelle votre livre intitulé L'Empereur et les milliardaires rouges, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.